Merci pour tout le monde, merci pour tous, merci pour les organisateurs et surtout pour la famille Pérez et non Pérez que Zkhout HaTorah ta'amod lahem ul kol zaraihem achem amen ken yeh ratzon. Nous allons parler ce soir au fait de l'essence de la Torah, mais aussi je prends un autre titre, du sens de l'histoire. Que signifie donc le sens de l'histoire? Il y a une Mishnah de Masechet Avot que tout le monde connaît, que tout le monde a lu au moins une fois par an. Dame ein bata ul anata olech. Akam el omer, dame ein bata ul anata olech. Velifne miata atid itendil mecheshbon. En fait, il y a trois questions que Akavia nous invite à méditer, à réfléchir. Mais trois questions qui sont en fond deux questions. Il s'agit donc de dame ein bata, sache d'où tu viens, la question sur l'origine. Mais Aïn Bata, et aussi Ul Anata Oler, le but, où tu vas, vers où tu vas. Donc la question de l'origine et du but, ce sont les deux grandes questions de l'existentialisme, mais c'est aussi les deux grandes questions de la Kabbalah. Dans Masechet Chagiga, nos maîtres parlent de Maaseh Bereshit et de Maaseh Merkava. Maaseh Bereshit signifie le récit de la Genèse, le mystère de la création, comment Dieu a créé le monde. Donc, il s'agit de Aïn. Le Aïn, c'est le Ensof, c'est le sans fin. C'est l'inconcevable aussi. C'est l'insaisissable. C'est le Aïn. Et ça, c'est la première question. Maaseh Bereshit répond donc à la première question, à savoir d'où tu viens. Le récit de la Genèse donc répond à d'où tu viens. Et Maaseh Merkava, le récit du chariot, répond à la question de vers où tu vas. Ul an ata holer. Pour quelle raison? On comprend bien Maaseh Bereshit qui relate donc le début, mais on ne comprend pas comment Maaseh Merkava peut signifier le but. Pour quelle raison la Merkava signifie donc le but? Au fait, le Ramchal nous explique que la Merkava signifie l'histoire. Pourquoi? C'est d'ailleurs une chose extraordinaire que le Ramchal a fait, c'est d'avoir paraphrasé la grande symbolique qui est la Kabbalah. Il y a beaucoup de thèmes dans la Kabbalah, mais qui ne sont pas signifiants pour l'entendement humain. Par exemple, l'histoire du chariot. C'est quoi le chariot? Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de thèmes, comme la barbe, les cheveux, Zeir Anpin, le petit visage, Arich Anpin, le grand visage. Il y a des grands thèmes dans la Kabbalah où ce sont des symboles, mais celui qui ne sait pas les interpréter, à savoir celui qui ne comprend pas la signification, il ne pourra pas saisir le message profond de la Kabbalah. Dans l'œuvre du Ramchal, une des choses extraordinaires qui nous a permis donc de comprendre la Kabbalah, c'est la signification de ces thèmes, à savoir l'interprétation de la parabole. Parce que pour le Ramchal, toute la Kabbalah n'est qu'une métaphore. C'est un machal, une métaphore. Et donc, il faut interpréter le machal. C'est comme quelqu'un qui est dans un rêve, il a donc des meshalim, un machal, une métaphore, et s'il prend la lettre, il ne comprend rien. Mais s'il interprète la métaphore, le symbole, il peut trouver une signification dans son histoire, dans sa vie. La Kabbalah aussi a été transmise sous forme de symbole. C'est pour ça qu'on peut l'appeler donc une sorte de symbolique. Par contre, le Ramchal a interprété cette symbolique et il a permis à l'homme, à nous, d'accéder à cette grande chokhma. Donc prenons tout de suite l'exemple dont on vient de rapporter maintenant. Il y a dans la prophétie d'Ézéchiel, il y a le récit du chariot, Maaseh Merkava. Celui qui ouvre la prophétie d'Ézéchiel, Ézéchiel parle donc du chariot. Il parle aussi de certaines formes de bêtes qui sont dans les côtés, de quatre côtés du chariot. Mais il y a une idée qu'on appelle le chariot. Que signifie le chariot? Le chariot, bon, aujourd'hui on dirait une voiture qui transporte. Mais il y a une voiture qui transporte des gens d'un endroit à l'autre. Et il y a une voiture aussi dans le ciel, dans le céleste. Il y a une voiture qui transporte les créatures d'un moment à l'autre. Comme il y a un transport dans l'espace qui transporte les gens d'un endroit à l'autre, il y a aussi un transport, Dieu transporte les créatures d'un moment à l'autre. Ce transport dans le temps s'appelle au fait la Merkava. La Merkava, c'est le transport. À savoir, on est passé à un moment donné de la Deuxième Guerre mondiale à la création de l'État d'Israël. Par exemple, ce passage, on peut le donner une signification rationnelle. Mais il y a bien sûr plus profond encore que le superficiel, que les événements tels qu'un historien ou un journaliste peut nous les rapporter. Il y a un sens profond de l'histoire. Et donc tout passage dans les événements correspond à quelque chose de bien précis dans la Merkava. C'est la raison pour laquelle nos maîtres parlent de Yordé Merkava, ceux qui descendent dans le chariot, à savoir descendent dans le plan divin, dans le plan de l'histoire. Donc ceux qui sont capables de descendre dans la Merkava, Yordé Merkava, sont capables de saisir les événements, de concevoir les événements avant qu'ils ne se réalisent. Un petit peu comme dans le rêve préméditoire, bien entendu. Donc il y a, dans cette symbolique qu'on appelle la Merkava, une histoire. Je vais donner un exemple beaucoup plus clair. Lorsque nos maîtres nous disent « Mashira ata shivra alayam lora'a ichiskel mebozi ba merkava » ce que la dernière des servantes a vu lors de la traversée de la mer, le grand Ézéchiel, le grand prophète Ézéchiel dont on vient de parler maintenant, n'a pas vu lui dans la merkava. Il faut comprendre en vérité qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont saisi. Au fait, il y a... dans cet enseignement de nos maîtres, Masherata Shifra Alayam, ce que nos maîtres, les patriarches, et aussi les servantes, à savoir ceux qui sont sortis aussi avec le peuple d'Israël, et qui ne méritaient pas au fait cette vision, mais eux, elles aussi ont vu cette grande vision. Il s'agit de quoi exactement? La Torah nous dit « Vaya Israël et Ayad Agedola ». Et Israël a vu la grande main de Dieu. De quelle grande main il s'agit? C'est quoi la grande main de Dieu? Et Ayad Agedola. Selon Rabbi Meir, dans la Gemara Brachot, Ra'u Ma'ase Bereshit, ils ont vu le récit de la Genèse. Ils ont vu la création du monde. Ils ont vu comment Dieu est la cause première de toute l'existence. Ils ont saisi la cause première. Ils ont vu la création. Ils ont vu devant eux, comme s'ils étaient spectateurs de la création du monde. On ne comprend pas très bien exactement qu'est-ce qu'ils ont vu, mais c'est ce que Rabbi Meir dit. Ils ont saisi le récit de la Genèse. Ma'ase Bereshit. Par contre, pour un autre maître, Rabbi Shimon, lui prétend que le peuple d'Israël a vu Ma'aseh Merkava. Ils ont vu Ma'aseh Merkava. Le peuple d'Israël, lors de la traversée, a vu le récit du chariot. Qu'est-ce que cela signifie? Alors après, on a expliqué qu'en vérité, Yam Souf, Souf veut dire la fin. Souf, sauf. Sauf, ils ont vu la fin des temps. C'est-à-dire, il y a un voile qui nous cache l'histoire, ou qui nous cache plutôt l'avenir, ce qui va se passer. Akadosh Baruch Hu a déchiré, Kriat Yam Suf, il aura déchiré la fin. Il aura déchiré donc ce voile, ce rideau, et ils ont vu toute l'histoire. En d'autres termes, pour Rabbi Shimon, ils n'ont pas vu la création du monde, mais ils ont vu la fin du monde. Ils ont vu toute l'histoire du monde, de toutes les créatures, jusqu'à la fin. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont saisi de peuple d'Israël? Ils ont vu, au fait, la gloire de Dieu. Ils ont vu la souveraineté de Dieu. Le Yihoud. À savoir, Dieu unique dans tous les actes. J'explique. En fait, le peuple juif a saisi, a vu dans la traversée de la mer, tous les actes de toutes les créatures de tous les temps. On a parlé déjà plusieurs fois dans les cours. Je répète, ils ont vu tous les actes, kol ha-ma'asim ben kol ha-zmanim shel kol ha-nivraim. Ils ont vu tous les actes de toutes les créatures de tous les temps. En d'autres termes, tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé depuis Adam Arishon jusqu'à la fin du monde, donc tous les actes de tous les hommes de tous les temps, ils les ont vus en face d'eux. Ils ont vu un film extraordinaire qui a duré une nuit jusqu'au matin. De Chatzot, de minuit jusqu'au matin. En somme, dans cette traversée, ils ont compris que Dieu est le maître sur tous les actes. Adon al kol ha-ma'asim. Donc, ils n'ont pas saisi cette idée donc, du Aïn Dam et Aïn Bata, l'origine, la cause, mais ils ont compris que Dieu dirige le tout, saisit le tout, mais ce n'est pas seulement qui saisit le tout, mais qui anime le tout. Adon al kol ha-ma'asim. C'est ça qu'on va essayer de parler, cette idée donc, qui est l'essence même de la Torah, et que c'est le but d'ailleurs de tous les événements de la Torah, de tous les commandements de la Torah, en comme but unique, de nous faire connaître cette souveraineté de Dieu. Yehud HaShilton, le pouvoir absolu de Dieu. Parce qu'en vérité, dit le Ramchal dans Derech Hashem, dans la voix de Dieu, c'est l'une des traductions que Baruch Hashem nous a traduites sur le Ramchal, une des œuvres principales du Ramchal, un livre au fait sur la foi d'Israël. Le Ramchal explique, au fait, quand on dit on croit en Dieu, c'est quoi la émouna d'Israël, la foi d'Israël, c'est pas seulement la foi en Dieu unique dans l'existence, ce qu'on appelle Yehuda Metziut, que Dieu est unique dans l'existence. Maïmonide, dans son livre Yad HaZaka, Sefer Hamada, le premier livre de Yad HaZaka, explique que Kol Israël, chaque juif, doit savoir Sheyesh Matsui Echad Mamtsi Kol Nimtsaim. Matsui Echad, il y a un être premier qui a donné l'existence à tous les existants. C'est Dieu. Enfin, je résume, c'est plus lent là-bas, dans le premier chapitre. En tous les cas, Maïmonide nous définit Kibyachol, c'est quoi la foi. Il y a un être, donc le premier être, la cause première, qui a donné l'existence à tous les existants. Le Ramchal nous dit, au fait, ce n'est pas suffisant de croire à Yehuda Metziut, à savoir l'être premier ou celui qui donne naissance, existence aux autres existants. Le Ramchal nous dit qu'en vérité, la émouna d'Israël, quand on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dieu unique, c'est pas unique dans l'existence seulement. Et qu'il y a un seul être nécessaire qui dépend de personne d'autre que de lui-même, ce qu'on appelle Mukhrach HaMetziut. Dieu est aussi le pouvoir absolu. Le Ramchal l'appelle Yehuda Shilton. L'unité dans le pouvoir. L'unité ou la souveraineté dans le gouvernement. Il est le seul qui gouverne. Il est le seul qui domine, il est le seul qui dirige le tout. Mais cette idée révolutionnaire met en cause la liberté, le libre arbitre. Puisque si nous disons que Dieu est le souverain de toutes les actions, il est le maître de toutes les actions, alors encore, qu'est-ce qu'on fait? On serait comme des marionnettes. On me dit, c'est beaucoup plus profond que cela. Mais d'abord, acceptons pour le moment cet axiome. C'est-à-dire que la souveraineté de Dieu. Et c'est là, au fait, l'unicité. Quand on parle de Dieu unique, il est unique aussi dans le ratson. Ce n'est pas seulement dans la metziout, ce n'est pas seulement dans l'existence, le seul être qui existe, à savoir qu'il ne dépend de rien, parce que toute existence, elle dépend d'une autre existence. Il n'y a aucun être qui est ce qu'on appelle, il se suffit pour lui-même, ce qu'on appelle mukhrach hametziout. Tout être dépend d'un autre être. Dieu, c'est le seul être nécessaire qui dépend de personne et que tout dépend de lui. Donc, ce que dans le terme de Maïmonide, il s'agit de Mukhrach HaMetziut, l'être nécessaire. Par contre, tous les autres êtres, ils peuvent y être, ils peuvent ne pas être. S'ils sont là, c'est parce qu'on voit toute sa volonté. Le Ramchal nous dit, en vérité, il faut dire la même chose au niveau de la volonté. Il n'y a aucune volonté qui est absolue. Toute volonté dépend d'une autre volonté. Il n'y a personne qui décide rien, il n'y a que lui qui décide tout. Et pourtant, il y a la récompense et la punition, qui nécessitent obligatoirement, quand je parle de récompense, sachar ve'onesh, obligatoirement, cela nécessite de dire que nous sommes libres. Sinon, alors pourquoi je suis récompensé et pourquoi je suis puni? Donc je peux être puni ou récompensé, apparemment, seulement si je suis libre et si je suis déterminé. Donc dans ce cas-là, je ne peux pas parler de Sakhar et Onej, de récompense et punition. Je reviendrai à cette problématique. Mais d'abord, il faudrait qu'on comprenne parfaitement le lien de ce qu'on appelle la Makriba, c'est le sujet. Peut-être qu'il faudrait réserver un cours sur la liberté humaine et, ou quelles sont les limites de cette liberté. Tout le monde est d'accord que la liberté, il y en a, mais on est quand même limité dans cette liberté. C'est pas une liberté ouverte de tous les côtés. Il y a quand même une liberté bien déterminée aussi. En tous les cas, il y a cette notion, ce qu'on appelle l'histoire, la Merkava. Le Ramchal l'appelle en vérité la Hanhaga, la direction divine. La majorité, la majeure partie de son œuvre, le Ramchal l'a réservée à la Hanhaga. Parce que le Ramchal dit, en vérité, on ne peut pas comprendre Dieu. On ne peut pas comprendre l'existence de Dieu. Cette existence, elle n'a rien à voir avec notre existence. Et on n'a pas assez d'éléments de comprendre l'existence première. Cependant, on peut comprendre et saisir Dieu de l'histoire, à savoir la direction divine. En d'autres termes, je ne peux pas saisir, comme dit le Ramchal dans le premier chapitre du Kalapita Ramba, on ne peut pas saisir la Atzmut, l'essence divine. Qui est Dieu? C'est quoi la nature de Dieu? Personne ne peut saisir cette idée extraordinaire qu'on appelle la Atzmut, l'essence de Dieu. Par contre, s'il ne peut pas saisir cette idée donc qu'on appelle la Metziut, l'existence et l'essence divine, je peux saisir par contre le Ratzon, la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu s'exprime à travers l'histoire. Donc il n'y a que le Ratzon en vérité, il n'y a que le Ratzon qui peut être accessible à l'homme. Si je n'ai pas droit de parler de la Atzmut, de l'essence divine, j'ai droit de parler et j'ai l'obligation de rechercher ce Ratzon. Et d'ailleurs, quand on dit « Ve'adata Hashem v'ashivotel v'avecha », tu connaîtras Dieu et tu répondras à ton cœur. Et ça veut dire quoi connaître Dieu? Connaître l'existence première? Connaître le Haïn? On veut dire à l'instant qu'il est impossible à l'homme d'accéder à l'infini. À savoir, et il est au-delà des limites, de la limite et de l'espace, et donc dans ce cas-là, je ne peux pas le saisir. Cependant, il y a un aspect de Dieu qui se révèle à travers l'histoire, et c'est le Ratzon. Donc, au niveau de la volonté, et uniquement de la volonté, j'ai droit de parler. Par contre, quand je parle de la Atzmut, de l'essence de Dieu, alors cela est écrit, d'après nos maîtres, que il est interdit d'accéder, de rechercher, de scruter, de parler même de cette existence première, ce qu'on appelle donc de l'être premier. La cause première nous échappe. Donc quand on dit Dame et Ain Bata, ce que j'ai rappelé tout à l'heure, au fait, il s'agit seulement d'accepter. D'accepter la cause première. Donc, ce qu'on appelle de savoir. Il faut savoir que, comme dit le Rambam dans Yad HaChazaka, dans Sefer Hamada, chaque juif doit savoir que Yesh Matsui, Echad, Mamtsi, Kol, Nimtsaim, Vehu, Mukhalach, HaMetziut. Il y a un être premier qui donne l'existence à tous les existants et qu'il est l'être nécessaire qui ne dépend de rien. Ceci dit que, si au niveau de l'existence de Dieu ou de la cause première, je ne peux pas poser des questions, donc il n'y a pas de recherche à faire. Par contre, sur le Yehuda Shilton, comme dit le Ramchal dans Derech Hashem, il y a une mitzvah de connaître. La souveraineté de Dieu. Le pouvoir de Dieu dans l'histoire. Et en vérité, c'est ce que nous disent nos maîtres dans le Midrash, j'ai rappelé tout à l'heure, « Vaya Israël et Tayad HaGedola ». Israël a vu la grande main de Dieu. Donc la grande main de Dieu, ils n'ont pas pu découvrir Dieu. Il est impossible de découvrir l'existence de Dieu. Par contre, ils ont saisi l'histoire. Ils ont saisi, au fait, le dénominateur commun de tous les actes. Au fait, en saisissant le fil moteur de toute l'histoire, quand ils ont saisi donc cette voie extraordinaire qu'on appelle l'histoire, ils ont saisi au-delà de cette histoire qu'il y a une origine et une direction, un fil conducteur de tous les événements. Parce qu'en fait, l'histoire n'est pas du tout un carrefour d'événements. Malheureusement, on lit des journaux et on lit des livres et on a l'impression qu'il y a un carrefour d'événements, comme j'avais dit tout à l'heure, il y a la guerre, il y a la création de l'État, il y a, etc. Et tout s'associe ensemble. C'est comme une marmite où on jette n'importe quoi et on ne comprend pas exactement c'est quoi le goût de cette sauce. On ne comprend pas donc quel est le sens de cette histoire. Et c'est là, en vérité, ce que le Ramchal explique. Ra'ata shifra alayam, ma shelo ra'ay Chizkel ben Buzi. Nous allons maintenant comprendre le Midrash, ou ce que nos maîtres ont dit, que la dernière des servantes a vu ce que Chizkel ben Buzi n'a pas vu. En fait, qu'est-ce qu'il a vu Yechezkel ben Buzi, et qu'est-ce qu'elle a vu la servante, ou qu'est-ce qu'ils ont vu le peuple juif lors de la traversée? Yechezkel ben Buzi, comme tous les prophètes, voit le plan divin de l'histoire. Yechezkel peut voir qu'il va y avoir la destruction du temple. Il peut voir aussi la construction du troisième temple. Alors qu'il est dans une période avant le deuxième temple, il va voir le troisième temple d'Israël. Il a vu le dessin, le plan de tout le troisième temple. C'est extraordinaire. Donc, au fait, Yechezkel ben Buzi, comme tous les prophètes, rentre dans l'histoire, dans le plan divin, dans la pensée de Dieu ou dans la volonté de Dieu. Cette volonté qui s'exprime à travers les événements, à travers l'histoire, Et donc en rentrant Yordé Merkava, en descendant dans la Merkava, il descend dans le plan de l'histoire, avant que cela se réalise, bien sûr. Il s'agit des milliers d'années avant. Alors c'est extraordinaire, qu'est-ce qu'on peut voir au-delà de l'histoire? Au fait, Yechezkel Buzi ne comprend pas, comme tous les prophètes, ne comprend pas la raison. Parce qu'il peut voir la destruction du temple. Il peut saisir la raison historique, mais la véritable raison, les prophètes ne la connaissent pas. Ils savent, c'est comme dans un rêve, ils vont voir ce qui va se passer grâce à l'interprétation, n'est-ce pas, des symboles qu'ils vont recevoir, mais ils ne comprennent pas la raison pour laquelle cela doit se passer comme cela. Pourquoi il y a trois temples? Pourquoi il doit y avoir trois temples en Israël? Ils voient les trois temples, mais ils ne connaissent pas la raison. La raison lui échappe. La véritable raison lui échappe, parce qu'il y a une raison historique, bien sûr. On doit sortir d'Égypte. Mais pourquoi on doit faire l'Égypte? Pourquoi on doit sortir d'Égypte? Pourquoi on doit entrer en Égypte? Bon, nos maîtres, comme la Torah elle-même, nous a signalé, nous a rappelé des raisons qu'on ne comprend pas d'ailleurs. À cause d'Abraham Avinu, la faute d'Abraham Avinu, on pourrait poser la question, bah, mais Eda, comment saurais-je que je vais hériter ces terres? Lorsque Dieu lui promet que sa progéniture héritera la terre d'Israël, Abraham de poser la question, bah, mais Eda, comment saurais-je? Donne-moi une preuve. Et Dieu de lui répondre, Yadoa Teda, tu sauras que tes enfants vont être exilés 400 ans dans une terre qui ne leur appartient pas. On ne comprend pas très bien, en vérité, comment à cause de la faute d'Abraham Avinu, alors on va souffrir 400 ans en Égypte. Et en fait, il y a des raisons, il y a un sens, bien sûr, à la punition, mais il y a au-delà, justement, de la raison historique. Et c'est ça que nos ancêtres ont vécu lors de la traversée. Au fait, ce qu'elle a vu la Shifra, ma chère Ata Shifra, elle a compris le sens de l'histoire. Si tout le peuple d'Israël, si tous les prophètes ont vu la Merkava, le chariot divin, ils ont vu le plan divin, ils ont vu donc l'histoire, certains événements qui vont se passer, mais ils n'ont pas compris le sens. Par contre, elle, la Shifra, la servante, avec tout le peuple d'Israël, ils ont compris la cause, Shoresh Ahanaga. Si eux voient la Ahanaga, la direction divine, donc l'histoire, eux, dans la traversée, le peuple d'Israël a vécu une expérience unique, et qu'on appelle Shoresh Ahanaga, la cause, la raison profonde de la direction divine, de l'histoire. Parce que parfois, on peut savoir qu'est-ce qui va se passer. Très bien, le prophète a vu. Et ils nous ont transmis, les prophètes. Mais il n'y a pas la raison. Eux, ils ont vécu ce qu'on appelle le Shoresh Ahanaga. C'est la raison pour laquelle Mashera Ata Shifra, dit le Ramchal, ne l'a pas vu le plus grand des prophètes. Mashera Ata, Lora Echeskel Ben Buzi Ba Merkava. Après cette introduction, on comprend maintenant ce que nos maîtres nous disent, que Az Yashir Moshe, après la traversée de la mer, alors Yashir Moshe, Moshe a chanté, avec le peuple d'Israël se chante. Mais nos maîtres disent, attention, Yashir veut dire, c'est un futur. On devrait dire, Az Yashir, alors chantera Moïse. Chantera. Pourquoi chantera? De là, disent nos maîtres, Mikan Triat Ameti Mina Torah. De ce verset, on déduit qu'il y a la résurrection des morts. D'un verset, mais vraiment tellement ténu, tellement caché, nous allons apprendre toute l'idée de Triat Ametim. Il n'y a pas d'autres versets. Non, il y a d'autres versets, bien sûr, mais ils sont tous des versets cachés. Que signifie Triat Ametim? Le Ramchal, dans son livre Kala Pite Orma, revient encore à l'idée de Yehud HaShilton. L'idée donc de la direction souveraine de Dieu. Dieu, maître Adon al Kolama Asim. Maître de tous les actes. L'Ambra nous explique dans le Kalar que à la fin des temps, lors de la résurrection, alors Dieu va nous montrer ce film qui commence d'Adam Arishon jusqu'à la fin du monde cette fois-ci. Mais là, on a fini le monde parce qu'il n'y a plus de monde, c'est terminé. On est à la fin du sixième millénaire. Et là, Yirou Ein Be'ein, tous les yeux verront. Kol Ha'Ma'asim Shil Kol Ha'Nivraim Ben Kol Ha'Zmanim Yunis Darim Leivadash Lemutir Yehudo Idbarach. L'Empereur nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi donc la résurrection des morts? Quel est le but? Le but, c'est Yom Adin Agadol. Dieu va faire justice. C'est quoi la justice? Il va présenter Ifros Kessimla, il va déployer la robe de l'histoire. Il va montrer tous les actes de tous les hommes, de tous les temps. Donc, encore la même idée de la traversée. C'est-à-dire, au fait, à quoi cela sert? Parce que maintenant, Dieu veut se révéler. Et la révélation de Dieu, il ne s'agit pas de la révélation de la nature de Dieu, de l'essence de Dieu, mais du pouvoir de Dieu. Yahud HaShilton, le pouvoir unique de Dieu. Dieu va montrer, au fait, tous les actes de toutes les créatures, de tous les temps. Je me répète, mais pour que ça soit clair pour tous. Donc, Dieu va montrer, il va révéler tous les actes de tous les hommes, de tous les temps. Et pourquoi? Pour montrer qu'au fait, il y a un seul maître qui domine tout et qui est souverain de tous les actes. Il est unique. Au fait, à la fin de sa vie, le Ramchal a écrit une pièce de théâtre. À la fin de sa vie, il n'a vécu que 39 ans. Et 3 ans avant sa mort, à Amsterdam, il a écrit une pièce de théâtre, L'Aïcharim Teïla, Gloire au juste. Dans cette pièce où, vous savez que le Ramchal a été poursuivi, et il a dû signer une reconnaissance d'arrêter d'écrire des livres de Kabbalah, puisqu'en fait, il a été poursuivi pour cela, comme un hérétique, malheureusement, et ils ont confondu l'homme de Dieu avec le faux Messie. Et malheureusement, ils lui ont interdit, pas malheureusement, c'est Minachamem aussi, ils lui ont interdit, ni plus ni moins, s'il ne veut pas être dans le Herem, en anathème, il doit signer un acte qui stipule donc l'interdiction d'écrire sur la Kabbalah. Donc le Rama, il écrit La Voix des Justes, Mishneh Sharim, que tout le monde connaît, c'est un livre donc d'éthique, ou Derech Hashem, un livre sur la théologie juive, sur la foi d'Israël, sans rapporter les termes de la Kabbalah. Et à la fin, il a écrit une pièce de théâtre. Bon, je ne vais pas la raconter, mais grosso modo, la pièce de théâtre, qu'est-ce que c'est une pièce de théâtre? Il y a des événements, il y a une intrigue. Et tout le monde recherche qu'est-ce qui va se passer. Et tout le monde se dit, mais si j'étais là, il faut lui dire ceci, il faut le dire à l'autre, etc. Et c'est dommage. Et l'intrigue est très forte, là, dans ce Laïcharim Teïla. Il s'agit d'un jeune marié qui a trouvé la route, que le roi a annoncé que celui qui trouve la route du château et la route vers la grande tour lui donnera sa fille en mariage. Et cet homme extraordinaire qui a compris la voie, la route. Et il a fait cette route. Et au milieu, bon, il est arrivé, ça y est, presque à la tour. Et là, il se repose quelques instants. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui prend la place. Quelqu'un qui l'a suivi. Alors, il y a... Les termes qu'il y a, c'est Yosher, c'est Orma, la ruse. Il y a beaucoup de gens donc, qui sont, donc, sont des symboles et qui se disputent. Cette fille, la fille du roi, qui est la Torah, en fait, qui est la vérité, qui est la sagesse. Et là, à un moment donné, il dit, voilà, c'est moi le marié, c'est moi qui a trouvé la voie, la route, c'est à moi, la sagesse, elle m'appartient. Bon, le roi prépare le mariage, et le mariage, il y a le déluge, il y a la grêle, et il y a une impossibilité d'accomplissement. Et tout le monde se dit, mais c'est pas possible. Il doit se passer quelque chose. Bon, c'est avant la grêle. Hein. Il y a beaucoup d'intrigues. Mais à la fin, se dévoile la vérité. Parce qu'il y a des questions qui vont se poser, qu'on pose à cet homme, et il ne saura pas répondre. Et là, se révèle le véritable Khatan. En fait, le Rambam veut nous montrer que toute la vie est une pièce de théâtre. Et chacun a l'impression de faire ce qu'il veut. Celui qui voit, qui est spectateur, il se dit, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est seulement à la fin que les intrigues terminent, les sphécotes terminent aussi, il n'y a plus de doute. Il y a un metteur en scène. En fait, ce qui a échappé à tous pendant toute l'histoire, c'est le metteur en scène. On pensait donc qu'il n'y avait pas de metteur en scène et que l'histoire, c'est un carrefour d'événements. Et ça, en fait, le Ramchal, en fait, il a expliqué simplement dans cette pièce de théâtre, mais dans tous ses livres, il parle de cette idée de la Hanaga et le Yichud. La Hanaga, la direction divine, et c'est ce qu'on peut capter, connaître de Dieu, c'est uniquement le comprendre dans les événements, donc dans l'histoire. Ça, la Merkava, c'est le déplacement dans le temps. Et c'est tout. Et bien sûr, le but de tout cela, c'est quoi le but? C'est le Gilou et Yehoud. Donc, le but de la création, c'est la révélation de l'unique. Quoique le Ramchal lui-même, dans plusieurs livres, nous parle de Tachlit Abriya ou Atava. Le but de la création, vous avez étudié dans Da'at Evunot et dans Derech Hashem, que le but de la création, c'est octroyer le bien. Pourtant, dans le grand livre de Kabbalah, Adi Marom, et le Kalach aussi, et un petit peu dans Da'at Evunot, le Ramchal parle d'un autre but de la création, et qui est la révélation de l'unique. Aïn be'aïn. Donc saisir la cause première, c'est saisir le Dieu de l'histoire. En fait, on n'est pas capable de remonter à l'origine. C'est impossible. Le Aïn nous échappe et nous échappera toujours. Donc l'essence divine nous échappera toujours. Par contre, le but de la création, on peut le saisir. Parce qu'en nous vivant, nous sommes aussi des sujets et non pas seulement des objets dans cette histoire. Nous sommes des sujets dans cette histoire. Nous sommes des éléments qui vivent l'expression de la volonté de Dieu. Donc nous vivons la volonté de Dieu. Et donc, nous sommes appelés à connaître Dieu. Moshe Rabbeinu a amené le peuple d'Israël à cette vérité absolue. Moshe Rabbeinu rappelle au peuple d'Israël à la fin de sa vie. Toi, le peuple d'Israël, tu as vu et on t'a démontré. Dieu t'a démontré qu'il est unique aussi bien dans le ciel que sur la terre. En vérité, de dire que Dieu est unique dans le ciel, ça ne fait pas peur à personne. Et ça n'engage personne de dire que Dieu est dans le ciel. Mais sur la terre, c'est la plus grande difficulté. Connaître Dieu sur la terre, la da'at ba'ares darkecha, connaître Dieu sur la terre, c'est plus difficile. Parce qu'il y a liberté humaine, il y a le mal. Et tout cela compromet la souveraineté de Dieu dans l'histoire. Donc, bien sûr, il y a une acceptation par la foi, d'accepter que la da'at ba'aretz darkecha, connaître Dieu, connaître les voies de Dieu sur la terre, c'est aussi accepter Dieu sur la terre. Mais il ne s'agit pas seulement d'accepter la souveraineté. Il faut la connaître. Va'ashevota elevavecha. Le Ramchal dans Da'at Evunot nous dit, c'est que Vashivota, tu répondras à ton cœur, à savoir des réponses plausibles. Non pas seulement des, comme certains pensent que la foi, c'est d'accepter. C'est vrai, tout le temps qu'on ne comprend pas, il faut accepter. Mais il faut rechercher, il faut analyser, il faut une réflexion sur la direction divine. Seul celui qui a réfléchi sur la Hanaga peut s'appeler réellement croyant. Celui qui a accepté, parce que, en fait, la croyance, la foi, c'est pas seulement une acceptation. C'est au-delà même de la connaissance. Après avoir approfondi la connaissance au maximum, la pousser à l'extrême, chacun selon son niveau. Après, on doit accompagner. Parce que le prophète dit, les ma'antedo, vetamino, vetavino. Le prophète, le Rambam, le rapporte dans Tevunot, que tu sauras, ce que dit le Rambam au début donc, de Sefer Hamada, il s'agit de savoir d'abord. Savoir, c'est apprendre, sans saisir les profondeurs, bien sûr. Il s'agit d'apprendre, de connaître, plutôt d'apprendre, de savoir. Yadata, c'est le savoir. Ensuite, de croire, et ensuite de comprendre. Parce que la compréhension, elle vient après la foi. Après avoir accepté cette vérité, les portes s'ouvrent. Ceci dit que, nous allons venir maintenant à notre deuxième volet, à savoir la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah? Beaucoup de gens disent que la Torah, bon, c'est pour m'apprendre un comportement, comment me comporter. La Torah m'apprend comment, donc... Comment vous comportez? Abraham Avinu nous apprend donc l'acte de chesed, de la bonté. Yitzhak, c'est la rigueur, donc c'est le sacrifice, etc. Donc, dans chaque événement, il y a une éthique, il y a une morale. À savoir, il y a une approche anthropocentrique, une approche humaine de la Torah. La morale, l'éthique. D'autres diront, la Torah, au-delà donc d'une éthique, il y a aussi un commandement. Il y a un ordre divin. C'est-à-dire les mitzvot. Certains vont retenir seulement une morale. C'est plus facile. Parce que dans une morale, il y a des mesures. Chacun considère ce qu'il veut. Il prend ce qu'il veut. Par contre, un commandement, c'est clair. Tu dois mettre tes tefillin, tu dois respecter le Shabbat. Et bon, malheureusement, on peut interpréter aussi comme on respecte le Shabbat. Mais je ne vais pas rentrer dans ces discussions. Ceci dit qu'il y a les commandements, et le commandement, il y a une soumission, parfois, de la logique. Maïmonide s'est cassé la tête dans un livre qui s'appelle Moré de Bouchim, dans le Guide des Égarés, pour donner une certaine rationalité aux commandements, de comprendre les commandements, parce qu'on veut comprendre, et que les commandements seraient aussi une éthique. Bon, parfois il a réussi, et parfois il n'a pas réussi à nous expliquer. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi la barbe ? Pourquoi une barbe ? Est-ce qu'il y a une... Qu'est-ce qu'il dit Maïmonide sur la barbe ? Bon. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, illogiques. Ou, même si ce n'est pas illogique, mais quand même, il y a une difficulté à les accepter. Ne vole pas, ne convoite pas, bon, c'est facile. Et tout le monde acceptera ça. Enfin, chacun qui a un bon sens les acceptera. Par contre, les commandements de Tefilin, faire Kriyat Shema, se laver trois fois les mains de cette manière, etc., on ne comprend pas toutes ces choses-là. Donc, on va dire que les mitzvot, les commandements, c'est un ordre, c'est un commandement que Dieu nous a ordonné. Et d'après ces commentateurs, la Torah, ce sont des commandements qui ont été donnés. Et la mitzvot nitnu, elle allait tsaref ba'em et tabriot. C'est pour arranger les hommes, préparer les hommes, astiquer, comme on astique une pièce d'argent pour lui retirer les scories, les saletés. Et bien on astique les hommes, comme on les astique par les mitzvot. Alors on nous astique par les mitzvot, vous comprenez? La Torah, c'est un nettoyage. On nous nettoie pour nous préparer à un niveau plus élevé. Parfois on comprend, parfois on ne comprend pas. C'est comme un enfant, pourquoi on le lave? Pourquoi on le nettoie? Bon, et pour lui, sa toilette elle peut durer 30 secondes ou une minute. Mais normalement, il voudrait nettoyer un peu plus. Alors Dieu nous nettoie par les mitzvot. En vérité, cet aspect est véritable. C'est-à-dire, en fait, le Hachamim Maïmonide, entre autres, va selon cette voie que la Torah a été donnée pour les hommes. Pourquoi? Comme il rapporte un ensemble de nos maîtres, Maïkpatola Kabruhu, Shishat Minatsava, Omina Oref. Qu'est-ce qu'il en a à faire, Hachem, si tu égorges une bête de sa gorge ou tu l'abats de la nuque? À savoir, c'est pas important pour Dieu si tu fais la shrita à une bête kachère ou une bête taref. C'est pour toi que tu le fais. Ceci dit que si tu manges kachère, eh ben c'est très bien. Sinon, eh ben tu es impur. Et tu obstrues ta connaissance. Voilà ce que nous dit Maïmonide. Qu'au fait, on n'ajoute rien du tout à Dieu. Dans les mitzvot, dans les commandements, au fait, il y a ici une approche anthropocentrique, une approche humaine, ou au niveau moral, ou à un niveau de commandement. Dans les deux cas, ceux qui voient la Torah comme des commandements, des lois, ou comme une morale, les deux sont d'accord qu'en vérité, la Torah et rationnel, et une approche humaine, et c'est pour nous. Nachmanide est le premier qui s'est opposé à cette voie. Bien sûr, le Zohar cache toute cette voie ésotérique de la Torah, à savoir que la Torah part de Dieu. Et c'est une expression de Dieu lui-même, à travers les événements et à travers les commandements. Et Nachmanide réplique contre Maïmonide dans la loi, dans une des mitzvot qui s'appelle donc Shiloh HaKen, à savoir, tu envoies la maman et tu garderas pour toi les oisillons. Si tu vois donc un oiseau avec les bébés, avec les oisillons, avec les œufs, alors tu n'as pas le droit de tout prendre. Tu envoies la maman et tu gardes Shaleh Ateshataim, Bebanim, Tikalach. Mais Benoît nous dit, au fait, c'est pour ne pas graver, pour extirper de l'homme tout acte criminel, et donc ici il y a un acte de miséricorde, ou plutôt extirper l'acte criminel de nous, et Dieu veut la progéniture, veut la continuité. Donc on voit la maman, qui signifie donc la progéniture, qui c'est celle qui va créer encore, et de ne pas détruire l'espèce. Donc Dieu veut graver dans notre cœur l'acte de miséricorde. Nachmanide repousse cette explication. Je ne rapporte pas donc tous les éléments de Nachmanide dans Parashat Kitetsé, mais il dit tout simplement que, au-delà de cet acte, bien sûr, d'extirper le crime de nos cœurs, il y a Vadaï ici une signification très profonde. Parce qu'en fait, toutes les mitzvot reflètent la volonté de Dieu. cette volonté, et c'est la seule qu'on peut saisir, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas saisir l'essence divine, mais par contre, on peut saisir la Torah, puisqu'elle nous a été ordonnée. Vagitabo yom abalaila. Dieu nous ordonne de méditer, de réfléchir sur la Torah. Et donc de réfléchir sur sa volonté, à travers deux symboles, les mitzvot et les événements. Même les mitzvot, d'après le Ramchal, rentrent dans cette catégorie du symbole, à savoir en tant que emtsai, en tant que moyen. Le but, ce n'est pas l'accomplissement des mitzvot. Le but, c'est l'adhésion à Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Les mitzvot, comme les événements qui sont rapportés dans la Torah, vont nous permettre, c'est la voie unique, il n'y a pas d'autre voie. Ce sont les deux voies, donc, et les mitzvot et les événements, qui vont nous permettre de saisir directement cette souveraineté de Dieu, l'unité de Dieu. Alors, au fait, je donnerai la réponse quand même de Nachmanide, qu'en envoyant la maman, elle crie pour ses enfants. Alors à ce moment-là, ce cri suscite un autre cri en haut. Le Zohar dit c'est le cri du Mashiach. Kantzipo, il s'agit du lieu même où réside l'âme du Messie et qui demande à Dieu, regarde, cette maman, c'est de la chair et du sang. Bassar Vadam, c'est de la chair. Et regarde, elle a une peine, un souci pour ses enfants. Et elle crie pour ses enfants. Et toi, tu ne cries pas pour tes enfants qui ont été pris, kidnappés par les goïnes. Donc le Mashiach vient chaque fois qu'on envoie une maman, et ce cri réveille un autre cri. En fait, c'est le Ramban rapporte donc cet acte extraordinaire, et en fait, le Ramban explique que tous les mitzvot, ce sont comme des interrupteurs qui réveillent, qui suscitent quelque chose. Donc ce sont des actes, mais qui allument des flux extraordinaires dans le monde. Chaque mitzvah, tefillin, shabbat, chaque lecture dans la Torah, chaque mot dans la Torah, je dirais plus encore, chaque lettre de la Torah. Vous mettez une mezouza, c'est pas seulement une protection pour votre maison. Mais pour la majorité des gens, la mezouza, c'est la protection de la maison. C'est ni plus, ni moins. Mais en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus que cela. La mitzvah, je dirais, c'est possible que l'idée de la protection est rapportée par nos maîtres. Donc ce n'est pas une blague. La Torah ne parle pas de la protection de la maison. La Torah nous ordonne. Tu mettras, donc tu écriras une mezouza et tu la placeras à l'entrée de ta maison. Mais il ne dit pas la raison pourquoi. Bon, nos maîtres ont dit que c'est la protection. Mais en vérité, dans la mezouza, il y a un acte extraordinaire pour affaiblir le mal dans le monde. Je vais vous donner un exemple de ce qu'on appelle, deux exemples déjà, nous avons le Kantzipor, le nid d'oiseau, et la mezouza. En réalité, tous les actes ont un rapport avec la restauration du monde, avec l'arrangement du monde, le tikkun haolam. Les mitzvot, ce n'est pas seulement le tikkun de l'homme. Les mitzvot, c'est le tikkun de tout ce qui existe, de toute existence. Dieu nous fait participer avec lui dans le tikkun haolamo. C'est de son monde à lui. Et donc, il nous donne la possibilité d'être partenaire avec lui. Et partenaire, à la fin, donc nous allons vivre avec lui. Parce que le but, c'est quoi? Le but à la fin, c'est, comme dit le Ramchal dans Derech Hashem, c'est d'atteindre ce qu'on appelle le kibbutz hashlemim, le rassemblement des hommes parfaits, des croyants. Et ces hommes qui ont cherché la perfection du monde, la perfection universelle, mais aussi l'accomplissement des mitzvot, l'accomplissement de la volonté de Dieu, parce que c'est la même chose. Les mitzvot, c'est le tikkun haolam, c'est la réparation du monde. Ceux-là vivront l'éternité avec Dieu. Sova semachot et panecha. Ils vivront l'abondance, la réjouissance de la présence divine. Parce que dans notre monde, c'est ça l'éternité. C'est se réjouir éternellement de la présence. Comme disent nos maîtres, enachila ve'enchtia, il n'y a pas de repas là-bas, il n'y a pas à boire. Il y a juste une seule chose, profiter, se délecter jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini, il n'y a pas d'infini. Se délecter continuellement de cette cause première. Mais voilà, il y a 6000 ans, dans ce monde, où nous allons appréhender, se disputer, se confronter à cause de cette soi-disant liberté, ce libre-arbitre, cette volonté, et comme le Ramchal l'appelle, Ratzon Mush'al, une volonté empruntée. Dieu nous emprunte un keli, un instrument, qu'on appelle la volonté, on a l'impression que c'est notre instrument à nous. Mais c'est le sien. C'est le sien parce que « En lecha ben horin » et la Meshé Osek Batora, il n'y a pas réellement d'homme libre. Seulement, celui qui est préoccupé constamment par ce tikkun haolam, cette restauration du monde. Parce qu'en vérité, comme j'expliquais tout à l'heure, on est comme dans une pièce de théâtre. Et que chacun, par manque de connaissances, peut lui paraître qu'il est libre. Et je vais expliquer maintenant cette idée donc de liberté pour terminer. Il y a une idée extraordinaire, donc c'est le propre de l'homme, et c'est ça le Nachash. Le Nachash est venu chez l'homme, lui dire, écoute, cher ami, vi'item kelokim, tu ne seras plus un objet dans l'histoire. Tu ne vas pas attendre la pluie qu'elle tombe. Tu vas toi faire la pluie. Tu vas faire le beau temps. À savoir, tu vas être vi'item kelohim. Tu ne vas pas attendre la mort bêtement. Tu vas comprendre la nature et tu vas faire ta vie. Tu ne vas pas attendre à manger. Tu vas amener à manger. Adam Rishon, avant la faute, Haya mitpa'el, dit le Ramchal, Haya mitpa'el, mina shoresh. Kemal'achim, shinpa'alim, mina shoresh. Comme les anges qui sont animés par la racine, par la cause première. Ainsi, Adam Rishon était animé et ressentait continuellement ce vecteur qu'on appelle donc le Koach Elohi, la force divine. Aujourd'hui, on n'a pas cette impression. Chacun a un intellect. Et cet intellect, c'est lui qui le dirige. Mais en vérité, il y a deux intellects. Il y a l'intellect naturel et l'intellect agent, ce qu'on appelle le Ruach HaKodesh, ou l'esprit sacré, le prophète, celui qui puise de l'au-delà. Il y a le rationnel qui voit uniquement dans ce monde. C'est l'aspect superficiel du monde. Ça, c'est l'intellect naturel. La bête aussi, un aigle, un cheval, une vache, elle a aussi son intellect. Ce que peut faire l'aigle, il ne peut pas le faire l'éléphant. Ce que fait l'éléphant avec sa trompe, l'aigle ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que Dieu a gravé dans chaque créature l'intellect, le sechel ativé, l'intellect qui lui permet de vivre, de survivre aussi. À savoir, il y a ce qu'on appelle la substance, ce que le Rizal appelle « réveillit Adam ». La substance du sang, qui est le quart, dans la mesure, dans la quantité, c'est le quart en quantité du sang. En fait, il y a une substance dans la matière, qu'on appelle la matière grise. Et en fait, c'est ce qui réfléchit. En fait, chacun a son intellect naturel. Mais comment il a obtenu son intellect naturel? C'est par ses parents, par ce qu'ils ont mangé, par la ville, par le pays où ils ont vécu. Et il y a beaucoup d'autres éléments qui s'associent, même au niveau interplanétaire. Mais ça reste au niveau physique, mécanique. Il y a un intellect naturel. Mais il y a un intellect, ce qu'on appelle la neshama. Il y a le nefesh ou le ruach, et il y a la neshama. Il y a l'âme divine, la partie divine que existe seulement au sein d'Israël au moment où ils acceptent la Torah, dans Har Sinaï, et pour toute personne qui accepte donc la Torah. Et donc elle est animée, si elle veut bien sûr, par la neshama. Donc seul celui qui a accepté la Torah est libre. Mais celui qui n'a pas accepté la Torah, il n'est pas libre. Parce qu'en fait, il est sujet aux fluctuations, aux événements de ce qui le précède, des volontés qui le précèdent, et même du sel qui est dans son sang. À savoir, ce n'est pas seulement le sel, je dis le sel, le sucre, ce que vous voulez, ce qui existe dans sa matière, l'influence à être nerveux ou à être doux ou à être, je ne sais pas. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'éducation. Alors, le Rizal sépare ainsi de trois éléments l'âme humaine. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, la partie animale. Nefesh, Abahamit, c'est l'intellect naturel. Le Ruach, c'est l'intellect. C'est l'esprit, mais c'est l'intellect. Ça, c'est l'éducation, ce qu'on nous a transmis, mais qui est en dehors de nous, qui n'est pas en nous, mais qu'on a appris, qu'on a récolté. Et il y a Neshama, c'est la partie divine, qui concerne personne, seulement le peuple d'Israël. Mais au sein même d'Israël, il y a ceux qui vont considérer la Torah seulement à un niveau intellectuel. À savoir, à un niveau rationnel. J'apprends quelque chose. C'est apprendre ou à laisser. Logique ou pas logique. Si c'est logique, je prends. Sinon, j'achète pas. On a rendu la Torah comme une matière quelconque, profane. Une science. À savoir, c'est au niveau du ruach. En vérité, qu'est-ce qui est libre dans l'homme? C'est pas le nefesh. C'est pas la partie animale qui est en nous. C'est pas l'intellect naturel. C'est pas la neshama non plus, la partie divine. Dieu ne jugera pas la neshama, elle est complète. Le nefesh, il ne juge pas, elle retourne au sable, à la poussière. Par contre, le ruach, c'est ce que Dieu va juger. Le ruach, c'est ce qu'on a récolté, ce qui est nous-mêmes, ce qu'on a fabriqué à partir du nefesh et à partir d'un neshama. Il y a ce que dans le ruach, il est entièrement sacré, il est entièrement kodesh. C'est le ruach HaKodesh, c'est la prophétie. Le ruach est devenu divin. Le ruach, c'est ce qui puise, il doit puiser bien de quelque chose, le ruach. Il faut qu'il compare à quelque chose, à une référence. Donc, encore une fois, il y a le nefesh animal, neshama divin, ruach c'est l'intellect, c'est le ruach holer veba. C'est comme le vent, ruach c'est aussi le vent, c'est le souffle. Tantôt ici, quand quelqu'un il a le choix d'aller à la synagogue ou d'aller au casino, ou d'aller au théâtre. Bon, et c'est vrai, il y a parfois une attirance plus pour ceci que pour cela. Ça dépend de son éducation. Mais il n'est pas convaincu. Qui est-ce qui est convaincu? C'est celui qui a atteint la Kdusha. Et seulement celui qui a atteint la perfection. Celui qui est allé jusqu'au fond. Sinon, il a pris bon, tantôt ici, tantôt là. Ce roi, il s'amuse. Parfois il est ici, parfois il est là. Mais seul celui qui a atteint la perfection. Donc la connaissance parfaite. Et c'est là en vérité la Torah. La Torah, je peux la voir sous ce plan intellectuel. Quand je dis intellectuel, à savoir, cette approche anthropocentrique, l'approche humaine, par rapport à moi. L'homme au centre. L'homme au centre du problème. Comme la philosophie, les Havdil. On peut voir la Torah comme une philosophie. À savoir, l'homme au centre. Mais il y a une approche théocentrique. Dieu au centre. En vérité, il n'y a que Dieu. Et nous sommes une expression de cette volonté de Dieu. Et c'est ce que dit le Ramchal dans Da'at et Vunot, qu'en vérité, tout ce qui se passe, toutes les créatures, accomplissent cette volonté de Dieu. C'est-à-dire, au fait, ils agissent en conformité au but de la création, qui est la révélation de l'unique. Donc, tous travaillent pour le même metteur en scène. Mais un qui est conscient, et l'autre qui est inconscient. C'est tout, c'est ça la différence. Mais tous ont leur place. Chacun en lecha Adam Shelo Bakom. En lecha Adam Shelo Bakom, en lecha Adam Shelo Shah. Il n'y a aucune chose qui n'a pas sa place. Il n'y a aucun être qui n'a pas son heure. Chacun a son temps. Chaque chose a sa place. Kol ma shebarak, ru bara lichvodo. Tout ce que Dieu a créé, il a créé pour sa gloire. Tout cela, toutes ces créatures, tout ce qui existe, c'est uniquement pour révéler cette souveraineté. À savoir, ces milliards de parcelles, de parties qu'il y a dans le monde, il n'y a rien qui est en plus. Chaque élément a sa place dans la révélation de l'unique. J'ajouterai maintenant, je voulais, en fait, la majorité parmi vous de ce cours, de ce bon, etc., connaissent déjà beaucoup d'éléments dont j'ai cité. Je voulais présenter en deux minutes le livre qui vient de sortir maintenant. Baruch Hashem, notre institut a publié 20 livres, Germain. 21 livres. Et en majorité en hébreu, ce livre est en français vient nous donner au fait cet aspect de la Torah. Que dans chaque événement, dans chaque commandement, on n'a pas tout expliqué, c'est seulement quelques exemples. Un exemple par paracha. Mais dans toutes les parachiotes, dans toute la Torah, il y a un aspect ésotérique, un aspect divin, un aspect de l'ordre de l'intériorité. La matzah, on la mange, non pas seulement parce qu'on n'a pas eu le temps de fabriquer du pain. Et même si la Torah le dit. La Torah nous dit, Teremichmas betsekam, ils ont préparé la pâte, ils n'ont pas eu le temps de faire du pain, et donc on a obtenu la matzah. Le Ramchal nous dit, c'est ça le rachat. Le rachat nous dit, ma avodazot lachem. C'est quoi tout ce boulot, c'est quoi ce travail que vous faites? Tout cela parce qu'on n'a pas eu le temps de faire. C'est impensable, ça ne marche pas. On n'a pas eu le temps de faire des matzahs. Ça en fait, c'est a posteriori, en d'autres termes. C'est b'di'avad. Et vous faites de ça toute une histoire. Matzah shmura. surveiller depuis le début de la récolte. Ça ne marche pas, il y a quelque chose qui nous échappe. Au fait, qu'est-ce qu'on répond au rachat ? Ba'avourze, Asalian Rabbi de Mitzrayim. C'est grâce à cela, grâce à la matzah que j'ai sorti d'Égypte. Parce que la Torah, elle existe avant la création du monde. La Torah existe avant l'histoire d'Égypte. Et les matzot, on en les a mangés à l'époque d'Abraham Avinu, lorsque les anges sont venus annoncer la nouvelle. Le jour de Pessah, Ka'et Chaya, Sarah Ben. Ce jour-là, l'ange Michael dit à Sarah et Abraham, comme aujourd'hui, tu auras un enfant. Vous aurez un enfant, c'était le jour de Pessah. L'Ushiva, c'est au Got Matzot. Elle aura fait des matzot. Ils n'étaient pas en régime. Elle aura fait des matzot. Et nos maîtres, nos patriarches ont respecté la Torah. La preuve, voilà, ils ont fait les matzot. Hey, mais quel rapport? Ça ne va pas. On sait que le Midrash est anachronique. Il nous dépasse. Il est au-delà de l'histoire. Mais d'accord, il faut bien comprendre quelque chose ici. L'Amra nous explique qu'en vérité, la matzah que nous mangeons, c'est un symbole de quelque chose qui existe avant. Mais c'est une réalité dans ce monde. La matzah, c'est parce qu'il y a une mitzvah qu'on appelle la matzah, que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Ce n'est pas l'Égypte qui a engendré la matzah, mais c'est la matzah qui a engendré la sortie d'Égypte. Ba'avourze, c'est grâce à cela qu'on est sorti d'Égypte. Il y a quelque chose au-delà. Mais pour nous, on ne peut comprendre que dans l'événement historique. Pour saisir quelque chose, il faut que cela se passe. Au fait, c'est la voix d'Adam Harishon. Il a voulu comprendre par l'expérience. Il veut expérimenter. Dans ce cas-là, c'est Etzadat. Il veut connaître. Dans ce cas-là, il ne veut pas accepter. Dans la première voie qu'on appelle Etzaraim, il aurait dû accepter cette vérité. Vous allez dire, mais sans comprendre. Non. Il y a un niveau au-delà de notre compréhension, qu'on appelle la compréhension rationnelle. Adam Harishon aurait pu se surpasser et faire cette réparation totale et saisir le tout. Ce qu'il n'a pas voulu saisir, ou accepter plutôt ce vendredi soir, ce Erev Shabbat, le dinomètre, il va l'accepter à la fin du sixième millénaire. La fin du sixième millénaire, on va comprendre. Et c'est quoi cette vérité? En od milevado. Il n'y a rien d'autre que lui. Donc en vérité, tous les événements. La Torah, c'est une trame de tout ce qui va se passer, de tout ce qui s'est passé. Ce sont les principes. Et donc tout ce qui s'est passé et se passera se trouve dans la Torah. À forba vers forba. Inverse et renverse, et tu trouveras le tout. Donc dans la Torah, il y a effectivement une histoire divine, une expression de la divinité, qui se trouve à travers ces 52 semaines, ou ces 53 semaines. 53 parashiot. Dans ces 53 parashiot, 53 sections, il y a la totalité de ce qu'on appelle la vérité. À savoir l'unique, qu'il existe, seul être qui existe, seul être qui dirige. Et c'est seulement une expression de cette volonté. Je terminerai encore une fois par encore une petite histoire, toute petite histoire. Et c'est sur le sacrifice d'Isaac. Vous allez le voir dans ce livre, l'essence de la Torah, le sacrifice d'Isaac, au-delà de cette considération, bien sûr, combien importante du sacrifice, Dieu seul sait, ce n'est pas ce sacrifice d'Isaac, est-ce qu'on aurait pu supporter la Shoah? Est-ce qu'on aurait pu supporter n'importe quel élément tragique de continuer à croire au-delà de l'insensé, au-delà de la catastrophe? Voilà Dieu qui promet Abraham Avinu, tu auras une progéniture, etc. Et prends ton fils et égorge-le. Donc je dis, bien sûr qu'il y a un message moral, éthique, extraordinaire. Il ne faut pas le dédaigner, loin de là, même si j'ai l'impression. Il y a, au-delà de cela, un acte de Dieu dans la création. Et toutes les mitzvot et tous les événements sont des actes de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est Agel Yitzhak? Mais vraiment, en gros et court, Avraham correspond à un principe divin. Yitzhak aussi correspond à un principe divin. Avraham, les maîtres disent, c'est le chesed, c'est la bonté, la miséricorde. Yitzhak, c'est la rigueur, c'est le din, midat hadin. Tout le monde le sait. Le Ramchal va plus loin en nous expliquant que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé la limite, ce qu'on appelle l'espace primordial, parce que pour créer le monde, il faut, Dieu, c'est l'infini, il comble tout, il n'y a pas d'espace en dehors de lui. Il a fait un espace. Il a vidé kivyachol l'infini de cet espace. Ce qu'on appelle le tzimtzum chez les mekoubalim, la rétraction ou le retrait divin. Le Ramchal dit que en fait, c'est la limite, parce qu'il y a l'infini, il a fait donc une limite. Et cette limite correspond à Yitzhak Avinu. Yitzhak, c'est le symbole de la limite, la rigueur, la loi. Midat Adin. Avraham, c'est le contraire. C'est l'expansion du Chesed. Mais lorsque Dieu a créé le monde, il a fait cet espace, et pour pouvoir engendrer maintenant toute l'existence, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré, il a fait entrer un flux, un rayon, le cave. Le rayon divin qui va entrer dans ce halal, dans cet espace vide. Ce rayon, c'est Avraham. Avraham, c'est le cave. C'est l'expansion de la lumière. C'est la diffusion de la présence divine dans ce monde. Mais le monde n'est pas né de cette diffusion de la lumière. Le Riza nous explique que ce n'est pas la synthèse. Lorsque le cave, le rayon et le halal se vident, se sont rencontrés. Comme la terre, on va dire, elle rencontre le grain. Cette rencontre, la terre, bon, c'est l'espace vide. Il n'est pas tellement vide, dit le Ramchal. Parce qu'il y a une trace aussi. Ce qu'on appelle la présence féminine de Dieu. Mais c'est une présence qui est cachée. Et le flux qui correspond au Zaha, au principe masculin, et donc le cave qui rentre et qui intègre le réchim, l'empreinte ou le halal, le vide, de cette rencontre va naître la progéniture, c'est-à-dire au fait toute l'existence. Au fait, Dieu refait la création, mais une création arrangée, avec Avraham et Yitzhak. Avraham et Yitzhak commencent une nouvelle création. C'est une recréation à partir de Avraham et Yitzhak. C'est pour ça que Avraham et Yitzhak correspondent aux deux principes de la création. Parce que Ratzal Ivro Torah Olam Badin, nos maîtres disent, il a voulu créer le monde avec le Din. Impossible. Le monde ne pourra pas subsister qu'avec Yitzhak, qu'avec la rigueur, qu'avec la limite. Il y a au-delà de la limite, le Chesed. Mais c'est aussi le Kav. La rencontre des deux va permettre la naissance de Yaakov. Yaakov, c'est Israël. C'est les 12 tribus. Et d'ailleurs, d'après les Mekoubalim, il y a 12 configurations divines qui dirige le monde. Yudke Vavke, le tétragramme Yudke Vavke, peut être écrit de 12 manières différentes, selon les permutations. Et toute la Hanaga, toute l'histoire, elle se fait selon un des modes du Tsirouf, ce qu'on appelle la permutation de un de Yudke Vavke. Ce sont les 12 enfants d'Israël. Les 12 tribus correspondent aux 12 figures, aux 12 modes de la direction divine. Yaakov, au premier prototype de la création, qu'on appelle Adam Kadmon. Donc c'est le premier plan divin. Avraham, c'est le cave. Et Yitzhak, c'est le régime, ou c'est le halal. Enfin, brièvement donc, pour ceux qui ont compris, ou ceux qui n'ont pas compris, c'est pas tellement grave. C'est seulement, il s'agit de comprendre que chaque événement, que chaque commandement, correspond à un acte divin. Ce qu'on appelle l'ésotérisme juif, c'est ça la Kabbalah. La véritable Kabbalah que le Ramchal nous a interpréter, c'est de comprendre, de saisir la da'at ba'ares d'Arkecha, que la Kabbalah, elle ne parle pas seulement du ciel, mais elle parle aussi des voies divines sur la terre. Bauchan le'olam, amen ve'amen. Il y a d'abord, je vous encore une fois, merci pour tout cet arrangement, pour cette soirée. Et je rappelle qu'il y a des livres, quelques livres seulement, Kol HaKodem Zoche, celui qui précède gagnera. Le dernier livre qui est sorti donc sur les parachiotes, éclairé par la Kabbalah. Et Be'ezrat Hashem.